Chapitre 38. Jake ne garda pas grand souvenir des moments qui suivirent, et ce fut sans doute une bénédiction. Il avait quitté son monde un peu plus d'un an avant que 900 personnes ne se suicident collectivement dans un petit pays d'Amérique du Sud appelé Guyana. Mais il connaissait les pulsions de mort périodiques des Lemmings, et ce qui se passait dans la cité souterraine en désintégration des gris y ressemblait beaucoup. Il y eut des explosions, certaines à leur niveau, mais beaucoup plus loin. Une fumée âcre sortait de temps à autre des grilles de ventilation. Toutefois, la plupart des purificateurs d'atmosphère étaient encore en état de marche, et ils en absorbèrent le plus gros avant qu'elle n'eût le temps de s'assembler en nuages suffocants. Ils ne virent pas d'incendie, pourtant les grilles se comportaient comme si l'apocalypse était arrivé. Si la majorité d'entre eux se contentaient de fuir, arborant sur leurs traits le masque hébété de la panique, certains s'étaient suicidés dans les halls et les pièces communicantes à travers lesquelles la sphère d'acier guidait Roland et Jake. D'aucuns s'étaient donné la mort avec une arme à feu. D'autres, plus nombreux, s'étaient tailladé la gorge ou les poignets. Une minorité avait avalé du poison. Sur tous les visages privés de vie se lisait la même expression de terreur dévastatrice. Jake ne comprenait que vaguement ce qui les avait poussés à de tels actes. Roland avait une meilleure idée de ce qui leur était arrivé, de ce qui était arrivé à leurs esprits, quand la cité, depuis si longtemps morte, était d'abord revenue à la vie autour d'eux pour amorcer une nouvelle désintégration. Et Roland comprenait que c'était Blaine qui les y incitait, que c'était lui, le Deus Ex Machina. Ils évitèrent un homme pendu à une conduite de chauffage et dévalèrent bruyamment une volée de marches d'acier à la suite de la sphère flottante.
« Jake !» cria Roland.
« C'est pas toi qui m'as fait entrer, n'est-ce pas ?» Jake secoua la tête. « Je ne crois pas. C'était Blaine ?» Ils atteignirent le pied de l'escalier et se hâtèrent le long d'un étroit couloir qui menait à une porte sur laquelle les mots « défense absolue d'entrée » était écrit dans les lettres énoncées du haut-parler.
« Est-ce Blaine ?» demanda Jake.
« Oui, c'est un nom aussi valable qu'un autre. »«
Et qu'en est-il de cet autre... »
« Chut !» fit Roland d'un air mécontent. La boule d'acier s'arrêta devant l'écoutille. Le volant tourna et la porte s'entrebâilla d'un coup. Roland l'ouvrit en grand et ils pénétrèrent dans une vaste salle souterraine qui s'étendait dans trois directions aussi loin que portaient leurs regards. Elle était pleine de rangées apparemment sans limite de pupitres de commande et de matériel électronique. La plupart des consoles étaient éteintes et mortes. Mais tandis que Roland et Jake se tenaient dans l'embrasure de la porte, regardant alentour avec des yeux écarquillés, ils virent s'allumer des veilleuses et entendirent des machines se mettre en branle.
« L'homme Tic-Tac disait qu'il y avait des milliers d'ordinateurs, » dit Jake. « Il avait raison. Mon Dieu, regarde !»
Roland, qui n'avait pas compris le terme utilisé par Jake, ne pit pas mot, se contentant d'observer les rangées de pupitres qui s'allumaient les unes après les autres. Une gerbe d'étincelles et une fugace langue de feu émeraude s'élevèrent de l'une des consoles quand une pièce vétuste fonctionna de travers. Dans l'ensemble, les machines marchaient, et bien. Des aiguilles, immobiles depuis des siècles, bondissaient soudain dans le verre. D'énormes cylindres d'aluminium tournaient, déversant des données stockées sur des micro-plaquettes de silicone dans des banques de mémoire, de nouveau en éveil et prêtes à l'emploi. Des visuels digitaux indiquant tout, de la pression moyenne des eaux de la baronnie du fleuve occidental à la puissance en ampères disponible à la centrale nucléaire en sommeil du bassin de la Sainte, s'allumaient de pointillés rouges et verts. Des rangées de globes suspendus au plafond se mirent à irradier. Et de dessous, de dessus et d'autour d'eux, de partout, parvint le vrombissement bas de générateurs et de moteurs à transmission lente se réveillant de leur sommeil de bel au bois dormant. Jake donnait des signes croissants d'épuisement. Roland le reprit dans ses bras et poursuivit la sphère d'acier entre des machines dont il ne devinait même pas la fonction ni le but. Otte courait sur ses talons. La sphère vira à gauche et ils se retrouvèrent dans une allée filant parmi les rangées de milliers de moniteurs empilés comme un jeu de construction.
Mon père adorerait, pensa Jake. Certaines parties de cette immense galerie vidéo étaient encore obscures, mais nombre d'écrans étaient allumés. Ils montraient une cité qui avait sombré dans le chaos, tant en surface que sous terre. Des groupes d'ados se répandaient dans les rues, hagards, les yeux écarquillés, la bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Beaucoup sautaient des hauts immeubles. Jake, horrifié, observa que des centaines d'individus s'étaient rassemblés sur le Saint Bridge et se jetaient dans le fleuve. D'autres écrans laissaient voir de vastes pièces pleines de lits de toile pareils à des dortoirs. Certaines étaient en flammes. Les gris, en proie à la panique, allumaient eux-mêmes les brasiers, mettant le feu à leurs propres matelas et couvertures pour Dieu seul savait quelle raison. Un écran montrait un géant au torse de la taille d'une barrique qui balançait des hommes et des femmes dans une espèce de pressoir éclaboussé de sang. La vision à elle seule était insoutenable, mais il y avait pire. Les victimes ayant formé un rang docile attendaient docilement leur tour. Le bourreau, son écharpe jaune en serrant étroitement son crâne, les bouts noués battant sous ses oreilles comme des nattes, saisit une vieille femme et l'atteint dans les airs, attendant patiemment que le bloc d'acier dégage le broyeur pour l'y précipiter. La vieille femme ne se débattait pas. En fait, elle souriait, semblait-il.
« Dans les pièces, les gens viennent et vont, » dit Blaine. « Mais je ne crois pas qu'un seul parle de Michel-Ange. »
Blaine éclata de rire, un rire étrange, sot, semblable à un trottinement de rat sur du verre brisé. Jake sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Il refusait tout commerce avec une intelligence qui riait de la sorte. Mais avait-il le choix ? Désemparé, il regarda de nouveau les moniteurs. Roland, aussi sec, lui tourna la tête, avec gentillesse, mais fermeté.
« Il n'y a rien là-dedans que tu aies besoin de voir, Jake. »«
Mais pourquoi font-ils ça ?»
Jake, bien qu'il lui laisse l'estomac vide, avait envie de vomir.
« Pourquoi ?»«
Parce qu'ils sont effrayés et que Blaine entretient leur peur, mais surtout, je crois, parce qu'ils ont trop longtemps vécu dans le cimetière de leurs ancêtres et qu'ils en ont assez. » Et avant que tu ne les prennes en pitié, souviens-toi comme ils auraient été heureux de t'emmener avec eux dans la clairière où s'achève le chemin. La sphère d'acier prit en flèche un nouveau virage, s'éloignant des écrans de télévision et du matériel de contrôle électronique. Devant, incrusté dans le sol, un large ruban fait de matière synthétique luisait comme du goudron frais entre deux étroites bandes d'acier chromé qui s'amenuisait vers un point qui n'était pas l'extrémité de la pièce, mais son horizon. La sphère rebondit impatiemment au-dessus du ruban noir, et soudain, le tapis roulant, car voilà ce que c'était, se mit silencieusement en branle, avançant pesamment à petite vitesse entre ses revêtements d'acier. La sphère décrivit de larges arabesques dans l'air, les pressant de l'emprunter. Roland courut à côté de la bande en mouvement jusqu'à acquérir à peu près la même vitesse, puis bondit. Il posa Jake à terre, et tous trois, le pistolero, le garçon et le bafouilleux aux yeux d'or, furent rapidement emportés à travers cette plaine souterraine ombreuse où les vieilles machines renaissaient à la vie. Le tapis roulant les amena dans une zone pleine de ce qui ressemblait à des classeurs, des rangées de classeurs à l'infini. Ils étaient sombres, mais pas mort. Un bourdonnement bas et ensommeillé provenait des entrailles de chacun, et Jake aperçut des lueurs jaunes vifs entre les panneaux d'acier. Il se surprit soudain à songer à l'homme Tic-Tac.
« Il y a peut-être 100 000 de ces satanés ordinateurs dipolaires sous cette foutue ville. Je veux ces ordinateurs. »
Eh bien, songe à Jake, voilà qu'il se réveille.
« C'est donc ce que tu désirais, Tiki. Mais si t'étais là, je suis pas sûr que tu les voudrais toujours. »
Puis il se rappela l'arrière-grand-père de Tic-Tac qui avait été assez courageux pour monter dans un avion d'un autre monde et pour l'emporter dans le ciel. Avec Paris sang coulant dans ses veines, Tic-Tac, loin d'être effrayé au point de se suicider, eût été ravi de la tournure des événements. Et plus grande eût été la multitude de ceux qui se suicidaient sous l'emprise de la terreur, plus il eût été heureux.
« Trop tard, Tiki, » pensa-t-il.
« Dieu merci. » Roland parla d'une voix douce remplie d'émerveillement.
« Toutes ces boîtes, je pense que nous cheminons dans l'esprit de la chose qui s'est elle-même baptisée Blaine, Jake. Je pense que nous cheminons dans son esprit. »
Jake hocha le menton et songea à sa composition de fin d'année. « Blaine, le cerveau, est une foutue peine. »«
Oui ?»
Jake dévisagea Roland.
« Est-ce qu'on va sortir à l'endroit que je crois ?»«
Oui, si nous suivons toujours le sentier du rayon, nous émergerons dans le berceau. »
Jake acquiesça. « Roland ?»«
Quoi ?»«
Merci d'être venu me chercher. »
Roland opina et passa le bras autour des épaules de Jake. Loin devant eux, d'énormes moteurs rugirent. Peu après, un grincement sourd se fit entendre et une nouvelle lumière, une lueur criarde d'arc au sodium orange, se déversa sur eux. Jake voyait à présent l'endroit où finissait le tapis roulant. Au-delà, un escalator raide et étroit menait à cette clarté orange.